Médien.
Médien. Podcast.
Médien.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. La COP 28 s'est ouverte ce jeudi à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Pour le continent, les attentes sont toujours les mêmes depuis plusieurs années. Le respect des engagements financiers afin de soutenir les pays en développement qui souffrent du réchauffement climatique. Dans cette émission, vous entendrez le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, revenir sur les priorités africaines à Dubaï. Dans Coémergence, nous irons également à Paris, où une table ronde sur les projets intégrateurs en Afrique centrale s'est tenue, notamment dans les pays membres de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, la CEMAC dont nous avons le plaisir de recevoir le président de la Commission. Il s'agit de Balthazar Engonga Edjo, il est l'invité de Coémergence de cette semaine. Vous l'entendrez dans quelques instants. Quel est le menu de votre émission? Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
Je vous le disais à l'instant, la COP 28 s'est ouverte ce jeudi à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Pour le continent, les attentes sont toujours les mêmes depuis plusieurs années. Le respect des engagements financiers pour soutenir les pays en développement qui souffrent du réchauffement climatique. Je vous propose d'écouter le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, revenir sur les priorités africaines à Dubaï.
Ce grand rendez-vous doit être également l'occasion de faire un plaidoyer, notamment pour le continent africain, qui est négativement impacté par les changements climatiques, alors qu'il est le moins pollueur.
La COP 28 se poursuit donc à Dubaï. Le financement des projets climatiques en Afrique est parfois une problématique que beaucoup n'arrivent pas à gérer, notamment en raison de l'articulation des projets. Pour renforcer les compétences techniques dans les pays du continent, une formation spécifique a été donnée aux cadres africains et c'était au Sénégal. Notre correspondante à Dakar, Simi Bokaka, a assisté aux travaux. Écoutons son compte-rendu.
Cet atelier tenu dans la capitale sénégalaise a pour objectif de mieux outiller les cadres des pays partenaires du portefeuille thématique Climat Sahel, PTCS, l'initiative et de l'Agence belge de développement Enabel. Les pays concernés sont le Burkina Faso, le Niger, le Mali et le Sénégal.
Donc cette formation elle a été très bénéfique en tout cas pour l'ensemble des participants. Elle a permis d'améliorer, d'outiller les participants en matière de conception de projets climat. Et également chaque pays a pu venir en tout cas avec des idées de projets qu'on a améliorées et qu'on va continuer encore d'améliorer avec l'équipe du consultant qui est là. Donc c'est le lieu ici pour nous, les autorités nationales désignées, de vraiment remercier Enabel pour cette initiative.
Pour ce responsable, la lutte contre le changement climatique incombe à toutes les parties prenantes.
Au regard donc de la complexité donc de ce phénomène, il faut que l'ensemble des partenaires, aussi bien au niveau national, au niveau international, au niveau public comme au niveau privé, se donnent la main donc pour pouvoir donc faire face efficacement donc à ce problème-là. Donc le financement d'abord de ce portefeuille, il faut le rappeler, qui est à hauteur donc de 50 millions d'euros pour l'ensemble des quatre pays, est un engagement fort donc du Royaume de Belgique dans cette lutte donc contre les changements climatiques.
Pour mieux formuler des demandes de financement climatique, encore appelé le Fonds vert, et bien préparer des projets sensibles au climat, plusieurs cadres ont été formés. C'est le cas de ce physicien.
L'ensemble de la documentation, quand même, qui nous donne un certain tableau de bord, en fait, un certain tableau de bord du moins, sur les différents process, les critères pour pouvoir accéder à ces fonds. Maintenant, c'est normal qu'au retour dans nos directions, nous allons éplucher de plus en profondeur pour pouvoir maintenant aligner ces nouveaux projets qu'on est en train de mettre en place.
Il est noté que le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Sénégal ont tous signé l'accord de Paris. Ils ont soumis des contributions déterminées au niveau national, ambitieuses pour la période 2020-2030, au secrétariat de la Convention, ce pour la mise en œuvre de projets d'atténuation et d'adaptation au changement climatique.
Zoom Express.
Nous avons le plaisir de retrouver Idriss Lingé, rédacteur en chef de l'agence panafricaine Ecofin. Avec lui, nous allons parler des financements climatiques pour faire face au réchauffement ou à la hausse des températures. Bonjour et bienvenue à vous, Idriss Lingé. Alors, il semble, bon, ce n'est même pas un doute là-dessus, mais c'est une certitude qu'aujourd'hui, sur le continent, par exemple, tout ce qui touche au financement et à la recherche sur le climat est sous-financé. Qu'est-ce qui explique cela?
Alors, nous étions partis pour discuter du changement climatique et sécurité alimentaire, mais nous avons été finalement capté par un chiffre contenu dans un rapport qui malheureusement n'a jamais été médiatisé, qui révélait que les financements mondiaux sur la recherche en rapport aux questions climatiques avaient atteint un total de 2500 milliards de dollars apportés par près de 521 organisations à travers le monde et couvrant divers domaines de recherche. Mais on s'est rendu compte que sur ce volume de près de 1500 milliards de dollars d'argent finançant la recherche climat, seulement 3,8% étaient consacrés à la recherche sur les questions climatiques en Afrique. Et bien plus encore, sur ces petits 3,8% qui sont réservés à l'Afrique, à peine 15% ont été captés par des institutions de recherche africaines, 78% ayant été pris par des institutions qui sont basées à Washington, Londres, Paris, en tout cas dans des pays développés, qui sont très éloignés du pôle de la recherche. Et on a aussi pu observer qu'il y a un petit biais qui veut que les pays africains, anciennement colonies de l'Empire britannique, reçoivent plus de financement, évidemment à l'exception du Nigeria et de l'Égypte, qui, je ne sais pas pourquoi, ne sont pas prises en compte dans ces financements-là. Donc voilà, ceci pour dire que les ressources financières accordées pour la recherche climat à des institutions de recherche africaines sont extrêmement faibles. La compétence et les capacités de l'Afrique ne sont pas mises à contribution de manière significative afin de pouvoir discuter sur les implications, faire en sorte que les constats et les solutions pour le climat et ses effets en Afrique ne nous soient pas importés, comme l'ont été de nombreuses solutions sur des questions économiques.
Alors Idriss Lingé, naturellement, la question qui se pose, c'est de savoir ce que l'on est en train de perdre en négligeant le financement de la recherche sur le climat. Exactement, que perd l'Afrique?
Alors, je ne vais peut-être pas parler des pertes, mais je vais parler de ce qu'on gagne. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, le monde est en train de s'orienter vers ce qu'on appelle le principe de la réparation. Parce que l'Afrique n'a pas pollué, l'Afrique ne pollue pas. Mais elle est victime et elle sera fortement frappée. Alors, la première chose, du point de vue même des politiques publiques, c'est qu'en finançant des institutions, des recherches qui sont basées sur le continent, on améliore la compréhension. Les impacts du changement climatique en Afrique sont divers et affectent divers secteurs tels que l'agriculture, 60% de la force de travail, les ressources en eau, très importantes pour l'équilibre hygiénique du continent, l'énergie, la santé. Le financement des projets de recherche peut donc améliorer la compréhension que le monde a des vulnérabilités spécifiques et des impacts afin de mettre des stratégies pour les mitiguer. La deuxième chose, lorsqu'on investit sur des institutions de recherche basées en Afrique, c'est qu'on peut aussi avoir des solutions locales. N'oubliez pas que les communautés ancestrales africaines ont vécu avec la nature pendant de très longues périodes. Elles ont toujours su trouver des solutions qui misaient dans l'adaptation aux questions de la nature en général. Donc aujourd'hui, cette adaptation ancestrale, ces leçons apprises peuvent permettre d'avoir des solutions qui ne sont pas toujours des solutions de marché, parce que c'est facile de dire remplaçons par exemple le feu de bois par du gaz, mais comment est-ce qu'on explore le gaz, qu'est-ce que ça crée sur l'environnement? Donc je crois que ça permet d'avoir des solutions locales. La troisième chose, ça permet un renforcement des capacités. Le monde apprend de l'Afrique, l'Afrique apprend du monde. Je ne parle pas d'un renforcement des capacités où l'Afrique est en train d'observer comme un petit élève. Non, c'est un échange, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir dans la connaissance. La quatrième chose, ça permet le développement des politiques cohérentes. Les résultats de la recherche peuvent informer l'élaboration des politiques basées sur des preuves concrètes, des preuves qui ont été éprouvées et non pas des preuves qui sont basées sur des analyses hypothétiques, même si nous devons respecter la qualité du travail qui est parfois fait par des institutions de recherche basées en Occident. Enfin, il y a l'engagement communautaire, la collaboration et le partage des connaissances, le transfert des technologies, aussi bien le transfert venant des pays étrangers, des continents étrangers vers l'Afrique, que le transfert de l'Afrique vers d'autres régions du monde. Des solutions africaines peuvent être utilisées dans d'autres pays du monde. Et ce ne serait pas une chose nouvelle. Et enfin, si les Africains expliquent mieux, peut-être que le débat géopolitique sur le financement du climat sera réglé. On comprendra mieux, on pourra mieux doser le financement, mieux savoir ce qu'on doit donner. Donc, on a tout à gagner à donner de la ressource à des institutions de recherche africaines. Quitte à ce qu'on mette des cadres, non pas des cadres d'influence, mais des cadres de performance qui permettent que ces recherches se déroulent dans de bonnes conditions.
Alors, Idriss, vous savez que le Maroc a accueilli la COP 22 en 2016 à Marrakech. Alors, le Maroc, on le sait, est très engagé sur les questions climatiques. Quels sont les efforts perceptibles du Royaume dans ce domaine vu d'Afrique subsaharienne?
Alors, le Maroc, il faut le reconnaître, fait partie des pays en Afrique qui ont pris des mesures significatives pour promouvoir l'investissement dans la recherche climatique ces dernières années. Le Royaume reconnaît l'importance de bien comprendre les défis climatiques auxquels il est confronté déjà lui-même et la nécessité de développer des solutions durables pour y faire face. L'une des initiatives majeures du Maroc dans ce domaine est la création de l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle. Cette institution promeut la recherche et l'innovation dans les énergies renouvelables et les technologies propres. Il collabore avec des partenaires nationaux, internationaux, pour soutenir la recherche. Et c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faudrait qu'on ait le partenariat, la collaboration et non une espèce d'indigénat scientifique. Aussi, le Maroc a également mis en place des incitations pour encourager l'investissement privé. Il n'encourage pas que la recherche par des institutions publiques, mais il permet aussi au secteur privé de pouvoir mener des recherches dans le domaine de la compréhension des effets du changement climatique. Il offre des avantages fiscaux et des subventions aux entreprises qui sont engagées dans ce domaine. Le Maroc a également lancé plusieurs projets nationaux visant à atténuer les effets du changement, ce qui veut dire qu'au moins sur ces projets, on pense que soit ils ont compris les problèmes qui se posent, soit ils vont comprendre en mettant en œuvre ces mesures. Et puis n'oublions pas que le Maroc avait accueilli en 2016 la COP 22, la conférence des parties prenantes à Marrakech, et c'était l'occasion pour le pays d'influencer le débat en la matière. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est très bien tout ce que le Maroc fait, Mais évidemment, tout comme d'autres pays, comme l'Afrique du Sud, comme le Kenya, le Nigeria, l'Égypte, qui sont vraiment en avance sur ces questions, mais on réfléchit toujours sur des solutions économiques. On ne pense pas aux problèmes fondamentaux, à des solutions fondamentales. Et je pense que si le Maroc, aujourd'hui, adjoint son expertise dans le cadre d'une collaboration intra-africaine avec d'autres institutions de recherche, ben, on peut espérer qu'on peut déjà parvenir à ce début d'étincelle de recherche purement africaine. Et donc, les pays qui historiquement sont responsables de la situation actuelle n'auront pas d'autres arguments et devront donner de la ressource à ces compétences, parce que ces compétences leur enseigneront sur comment mieux gérer la réparation, comment mieux rétablir la justice climatique, la justice sociale.
Merci à vous, Idriss Lindje. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de l'agence panafricaine ECOFIN. Merci pour tous ces éclairages.
Coémergence, l'invité.
Je vous le disais dans les titres, nous recevons aujourd'hui le président de la commission de la CEMAC. La CEMAC, c'est la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. La CEMAC qui a organisé une table ronde sur les projets intégrateurs en Afrique centrale. Il s'agit de voir quels sont ces projets qui jouent et favorise l'intégration régionale. Et pour en parler, Balthazar Engonga est joué avec nous. Il est le président de la commission de la CEMAC. Bonjour à vous, Balthazar Engonga et Joe.
Bonjour à vous aussi.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, votre table ronde s'est tenue à Paris pour favoriser le financement des projets intégrateurs en Afrique centrale. Alors justement, parlez-nous des résultats de cette table ronde qui s'est tenue les 28 et 29 à Paris.
Le résultat attendu par la commission de la CEMAC qui représente les États membres de cette communauté, le résultat attendu c'est la confirmation au niveau des bailleurs, les institutions financières dont on avait au préalable consulté au cours de notre mission circulaire pour présenter les 13 projets intégrateurs. Le résultat c'est la confirmation de financement de tous ces 13 projets intégrateurs présentés auparavant.
Alors, je pense que c'est des résultats donc que vous attendez. Alors, cela dit, quelles sont aujourd'hui les estimations en termes de besoins de financement de ces projets intégrateurs en Afrique centrale, notamment dans la zone CEMAC?
Les 13 projets prioritaires sélectionnés et présentés à la table ronde, le coût de financement recherché, c'est autour de 7 322 milliards d'euros. C'est plus ou moins l'estimation de nos besoins pour exécuter les 13 projets intégrateurs.
Mmh. Alors, qu'en est-il de la capacité de mobilisation financière de vos partenaires pour soutenir ces projets?
Nous pensons que après la confirmation de nos partenaires hier, au cours de la table ronde, là où chaque institution avait confirmé sa participation au niveau du financement de chaque projet présenté auparavant. Donc, on ne peut mettre en cause, le financement de ces projets présentés à la table ronde, bien que les institutions, nos partenaires, ont confirmé qu'ils allaient participer chacun à un pourcentage selon sa capacité de financement.
Alors, quels sont les projets intégrateurs mis en avant aujourd'hui par la CEMAC?
Il y a plusieurs, je dis au nombre de 13, mais les projets, l'aménagement de corridors Pointe Noire-Brazzaville sont les projets intégrateurs. Ce sont les corridors qui sont prioritaires pour, faciliter les échanges dans notre espace communautaire. Je parle de corridor Pointe Noire-Brazzaville, Ouesso-Bangui, Ndjamena et aménagement de bitumage de la route Kelo-Pala-Lere, frontière Cameroun-Tchad. L'aménagement et le bitumage de la route Modounou à Kourenam, Gabon, qui relie Gabon-Guinée équatoriale. Parce que ce sont les corridors que les opérateurs économiques, les hommes d'affaires vont développer leurs échecs.
Vous avez cité plusieurs projets qui sont majoritairement des corridors, disons, de transport routier et ferroviaire. Est-ce qu'il y a d'autres types de projets différents de ce qui touche au corridor ou ce qui est relatif au corridor?
L'aménagement, disons, la construction ou bien l'aménagement ou réhabilitation d'accès fluvial sur le fleuve Congo et au Bangui pour désenclaver une partie de la RCA. La RCA, avec la construction de corridors qui est déjà presque réalisé une grande partie entre le Cameroun et la RCA, c'est l'accès par la route. Mais pour désenclaver totalement la RCA, il serait souhaitable aussi, après les priorités sélectionnées par le PREVSEMAC et le programme économie régionale, on avait estimé nécessaire aussi d'aménager l'accès fluvial entre les affluents du fleuve Congo et le Bangui pour, disons, arriver au port fluvial de Bangui, capitale.
La capitale, donc, Bangui, la RCA, la République centrafricaine. Alors, cela dit, quel est aujourd'hui l'état? On sait que l'Union africaine, notamment à travers la ZELECAF, compte et encourage ces projets régionaux ou sous-régionaux. Quel est aujourd'hui l'état des infrastructures, disons, sous-régionales dans la zone CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale?
L'état des infrastructures aujourd'hui des états de la CEMAC, ce n'est pas totalement satisfaisant. Nous avons lancé à la présentation des projets prioritaires d'intégration pour renforcer justement l'intégration, c'est dû aux besoins réels pour faciliter les échanges, pour faciliter le déplacement des opérateurs économiques, la libre circulation des individus. C'est vrai que dans un premier programme économie régionale défini de 2008 à 2010, il était question que le coût estimatif de toutes ces infrastructures n'était pas réalisé comme nous l'avons souhaité, malgré la disponibilité de certains États d'introduire dans leur budget national la construction de certains corridors. Mais il a fallu que le PREVSEMAC, c'est-à-dire la conférence de ces États, donne un mandat encore une fois en 2016-2017 avec la création de comité de pilotage pour la réforme économique et financière PREVSEMAC pour accélérer justement le processus d'exécution des projets d'infrastructure en demandant, disons, le financement dans notre chez le partenaire financier et le partenaire de développement. Donc, c'est ça. L'état des infrastructures, c'est assez difficile, mais vous voyez pourquoi nous avons priorisé la présentation d'autres projets intégrateurs pour renforcer l'infrastructure disponible.
En tout cas, c'est très intéressant. Mais une dernière question me vient à tête. Balthazar Engonga Edjo, je rappelle que vous êtes le président de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. C'est comment va cette communauté? Comment va la CEMAC?
Nous venons de parler de l'évolution de la CEMAC, c'est-à-dire lancer aux infrastructures de base pour accélérer le processus d'intégration, pour faciliter les échanges. Donc, la CEMAC en mars, c'est vrai qu'il y a eu un peu de blocage dû aux certaines crises. Nous parlons de la crise sanitaire, de COVID, nous parlons de la crise sécuritaire et les autres. Nous parlons aussi de la crise sur la baisse de prix de nos produits d'importation. Toutes ces crises-là ont vraiment retardé l'exécution des projets intégrateurs pour arriver, disons, à un niveau de développement que nous souhaitons.
En tout cas, on espère que cette marche va se poursuivre. Merci à vous, Balthazar Engonga Edjo. Je rappelle que vous êtes le président de la commission de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci, merci à vous aussi, merci.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Medium Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Medium et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Inch'Allah.